Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Aujourd'hui, tous les députés canadiens, dont Justin Trudeau, ont été interdits de séjour en Russie. Les Russes qui ont annoncé aussi que le président Biden, tout comme l'ex-candidate à la présidence, Mme Clinton, était persona non grata. Et écoutez, il y a pas juste des députés au Canada qui ont été exclus. Il y a aussi une dame du nom de Alexandra Chijis, je ne sais pas si je le prononce bien, mais elle est présidente du Congrès canadien des Ukrainiens. Et là, le Congrès canadien des Ukrainiens a envoyé un communiqué de presse pour prendre acte du fait que sa présidente n'avait pas le droit d'aller en Russie. Et le communiqué de presse disait « Voici la réaction de notre présidente ». Et c'est un mot en trois lettres et le mot c'était « LOL ». Je ne sais pas si les Russes vont comprendre. Je ne sais pas si LOL, ça se dit en russe, mais ça veut dire ce que ça veut dire. OK, dans un registre plus sérieux, il y a le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, qui a fait un discours aujourd'hui par vidéoconférence aux parlementaires canadiens. Il a dit « Nous voulons vivre, nous voulons gagner, être victorieux. Nous souhaitons vaincre pour vivre ». C'est un discours très émouvant. Et il a pris des exemples canadiens pour... interpeller les députés canadiens. Il a dit, j'aimerais que vous compreniez les sentiments et les émotions que vivent les Ukrainiens. Imaginez l'aéroport d'Ottawa bombardé. Imaginez la ville de Vancouver assiégée, comme Mariupol. Imaginez la tour du CN bombardée. Et imaginez des enfants qui meurent à Toronto. Imaginez les explosions massives, les infrastructures, les écoles, les garderies, un incendie dans une centrale nucléaire. Et il s'est adressé, M. Zelensky, directement au premier ministre du Canada. Cher Justin, pouvez-vous imaginer recevoir tous les jours des mémos sur le nombre de victimes, y compris le nombre de femmes et d'enfants? On en parle avec Frédéric Mérand, qui est directeur du CERIUM, le Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Frédéric, salut!
Bonjour!
Je vais citer le président ukrainien. Il a dit « Nous demandons de créer une zone d'exclusion aérienne. Il faut arrêter les bombardements. Combien de missiles et d'attaques devront avoir lieu avant de prendre les mesures? » On sait que l'Ukraine demande à l'OTAN un couloir, une zone d'exclusion aérienne. C'est quoi ça?
Une zone d'exclusion aérienne, c'est essentiellement d'interdire tout l'espace aérien de l'Ukraine aux avions de chasse russes. Le problème, c'est que pour le faire concrètement, face à une force aérienne qui est très importante, celle de la Russie, la deuxième la plus importante dans le monde, ça veut dire tirer sur des avions de chasse russes. C'est la raison pour laquelle les pays de l'OTAN, comme le Canada et les États-Unis, refusent cette demande de l'Ukraine parce qu'ils considèrent que ce serait trop dangereux d'entrer dans une confrontation directe avec la Russie.
OK, on va revenir au risque, mais sur le principe d'une zone d'exclusion aérienne, est-ce qu'il y a des précédents récents?
Oui, il y a des précédents en Libye, en Syrie, dans le nord de l'Irak. Il y en a eu également dans les Balkans. Mais tous ces précédents avaient quelque chose en commun. C'était l'armée américaine contre une non-force aérienne. C'est-à-dire que c'était des pays dont les forces aériennes étaient presque inexistantes. Donc, c'était beaucoup plus facile de mettre en œuvre une zone d'exclusion aérienne que ce serait le cas en Ukraine.
OK. Je me souviens qu'on l'a fait dans les Balkans. Je pense que c'était au Kosovo. Et ce que ça assurait, c'est quoi? C'est que les civils se faisaient pas tirer dessus des airs.
Exactement. Ce qu'on voit en ce moment dans la stratégie russe, c'est qu'ils sont en train de pilonner, de bombarder de nombreuses villes qu'ils ne sont pas capables de prendre par des moyens terrestres. Donc, c'est un massacre, hein. Il faut pas se le cacher. Donc, la demande de Zelensky est tout à fait compréhensible. Lui se dit, si les Américains empêchaient les avions de chasse russes de bombarder les villes ukrainiennes, ce serait évidemment très important pour sa population. Mais le calcul de risque, et peut-être qu'on y viendra, n'est pas du tout le même pour les Occidentaux et pour les Américains.
OK, parlons-en du calcul de risque. Tout ce que je lis là-dessus là, incite à la prudence. C'est-à-dire que, disons que les pays de l'OTAN, dont le Canada, décidaient de créer une zone d'exclusion aérienne. Il y a des chasseurs canadiens, des chasseurs français, des chasseurs américains là, qui patrouilleraient le ciel de l'Ukraine. Et qui, dans le fond, engagerait un combat aérien avec des avions russes. Ce qu'on dit, c'est que si l'un ou l'autre des camps avait un de ses avions abattu, quoi, ça pourrait dégénérer en guerre nucléaire. Expliquez aux gens qui nous écoutent, Frédéric Mérand, comment on partirait d'un avion de chasse abattu à une guerre nucléaire?
Bon, d'abord, il faut dire que la différence entre une confrontation directe, que ce soit aérienne ou sur la terre, entre la Russie et les États-Unis et ce qu'on fait en ce moment, c'est la différence entre la guerre et soutenir un pays en guerre. C'est pas la même chose. Actuellement, ce qu'on fait, pour le Canada et les autres pays, c'est de soutenir l'Ukraine qui elle-même est en guerre avec la Russie parce qu'elle a été envahie par la Russie. Mais à partir du moment où nous devenons des co-belligérants, c'est-à-dire où nous appuyons les Ukrainiens dans leur conflit contre la Russie, là, on est nous-mêmes en guerre avec la Russie. À partir du moment où on est en guerre avec la Russie, il est possible que cette guerre demeure conventionnelle, c'est-à-dire sans l'usage d'armes nucléaires. Mais Vladimir Poutine lui-même a laissé planer l'usage de l'arme nucléaire. La Russie a quelques 6000 ogives nucléaires. C'est la deuxième puissance nucléaire du monde. Et donc, elle aurait la capacité de détruire, par exemple, toute l'Europe.
Oui, mais écoutez, il y a une part de bluff là-dedans quand même. Je veux dire, Vladimir Poutine veut pas... J'imagine, là, ni moi ni vous sommes dans sa tête, là. Mais est-ce que Poutine va déclencher une guerre nucléaire parce qu'on a battu un ou deux de ses chasseurs?
Probablement pas. Et d'ailleurs, il y a eu depuis 1945 un tabou nucléaire, c'est-à-dire que ni l'Union soviétique à l'époque, ni les États-Unis n'ont jamais utilisé l'arme nucléaire dans de telles circonstances. Mais la question du bloc a beaucoup changé depuis l'invasion de l'Ukraine, parce que tout le monde pensait que Vladimir Poutine a bluffé parce qu'il menaçait d'envahir l'Ukraine. Or, il l'a fait quand même. Donc, ça nous amène à réfléchir un peu sur ses propres calculs stratégiques. L'autre enjeu, c'est que utiliser l'arme nucléaire, ça ne serait pas nécessairement au niveau stratégique, c'est-à-dire en visant un autre pays comme les États-Unis ou le Canada. Ça peut se faire de manière tactique, c'est-à-dire sur un théâtre d'opération où les dommages sont moins grands, mais ils sont quand même aussi importants qu'une grosse explosion nucléaire de type Nagasaki ou Hiroshima. Donc, c'est pas nécessairement la planète qui est oblitérée, c'est pas l'hiver nucléaire, mais ça peut quand même être une situation d'escalade extrêmement dangereuse.
OK. Qu'est-ce que l'OTAN, présentement, les pays de ce qu'on appelle l'Ouest, ne fait pas que l'OTAN pourrait faire pour appuyer encore, disons, de façon plus importante les Ukrainiens?
À l'heure actuelle, la stratégie des alliés est vraiment axée sur les sanctions économiques et ce ne sont pas des petites sanctions économiques. La prochaine étape, avant même de penser en termes de guerre, c'est des sanctions sur les hydrocarbures, ce qui ferait en sorte que Poutine ne serait plus capable de financer son armée, on le sait, ce serait de bloquer les exportations d'hydrocarbures de la Russie. Donc ça, c'est vraiment, disons, l'étape la plus importante. Après, l'OTAN, en tant qu'organisation, bien déjà, elle fait beaucoup, c'est-à-dire qu'elle contribue à la formation de l'armée ukrainienne, il y a des fournitures d'armes pour aider l'armée ukrainienne. La logique, c'est toujours la même, c'est que on a le droit, en droit international, de venir en soutien à un pays qui se défend, mais l'OTAN ne va pas se placer dans une position où elle est co-belligérante, c'est-à-dire partie au conflit. J'ajoute, si j'ai une seconde, qu'évidemment, Poutine ne l'interprète pas de cette manière. Lui dit qu'à partir du moment où, par exemple, nous fournirions, disons, des avions de chasse, même si nous ne les pilotons pas nous-mêmes, il considérerait que c'est un acte de guerre et donc il se réserve le droit de bombarder, par exemple, une base militaire aérienne d'où viendraient ces avions.
Frédéric Mérand, je vous imagine plongé dans toutes sortes de documentations parce que on est en train de vivre une sorte de cours non seulement de relations internationales, mais d'histoire puis aussi d'efficacité militaire. Quel est le consensus des experts militaires sur la performance de l'armée russe?
Honnêtement, il n'y a pas de consensus, c'est ça la meilleure réponse que je puisse vous donner, parce que tout le monde a été surpris de la lenteur à laquelle l'armée russe a progressé en Ukraine, mais on ne sait pas si cette lenteur est attribuable à de véritables difficultés logistiques, d'organisation, un manque de préparation, ou si c'est une volonté de retenue relative de la part de la Russie. Donc ça, c'est disons ce qui nous empêche de porter un jugement définitif, mais ce qui est certain, c'est que la Russie pensait pouvoir conquérir l'Ukraine de manière beaucoup plus rapide. La résistance des Ukrainiens a fait en sorte que c'est plus compliqué. Ça change complètement l'équation géopolitique parce que pour soutenir un tel effort pendant très longtemps, et là, on parle pas encore de l'occupation de l'Ukraine, qui ne serait pas non plus une promenade de santé, ça demande beaucoup de volonté, mais ça demande beaucoup d'argent et les Russes ont de moins en moins d'argent parce qu'ils sont l'objet justement de sanctions sans précédent dans l'histoire contemporaine.
Mais je voyais des anciens militaires américains, là, des gens de haut rang, qui s'étonnaient de voir à quel point l'armée russe est pas aussi efficace qu'on pensait qu'elle aurait pu l'être. Je veux dire, il y a peut-être pas de consensus, mais il y a pas grand monde qui est impressionné.
Mais là, c'est tout le problème de la Russie, c'est que c'est un pays qui, pour Poutine, est encore une grande puissance mondiale, qui a en fait encore l'arme nucléaire, donc là, faut pas le négliger, mais qui est un pays qui s'est énormément appauvri dans les 30 dernières années, qui n'a plus l'influence et la puissance qu'elle avait autrefois. Et ça, on le voit bien dans le comportement des forces russes. On dit aussi que beaucoup de ces soldats n'avaient pas été préparés à un scénario d'invasion qui avait été bien caché. Ça, pour moi, c'est difficile de me prononcer là-dessus. Mais je dirais que la Russie n'éprouve pas des difficultés beaucoup plus grandes que les États-Unis lorsqu'ils ont conquis l'Irak ou l'Afghanistan, lorsqu'ils ont essayé d'occuper l'Afghanistan. Or, les États-Unis avaient un rapport de domination sur ces deux pays, l'Irak et l'Afghanistan, beaucoup plus important que la Russie par rapport à l'Ukraine. Et on voit ce que ça a donné. Ça a été très, très compliqué.
OK. En terminant, les sanctions. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que les sanctions, ça n'aurait pas d'effet. Est-ce qu'il est surprenant de constater que, d'abord, il y a une grande cohésion dans les pays de l'Occident, et ensuite, ça semble frapper quand même assez fort là, le quotidien des Russes?
Oui, je pense qu'il faut le mettre au crédit de Joe Biden et de son équipe en grande partie. Ils ont réussi non seulement à imaginer un régime de sanctions qui a pris les Russes par surprise parce qu'il était beaucoup plus ambitieux que ce qu'on faisait d'habitude, mais surtout qui a rallié une grande partie de ce que j'appellerais l'Occident élargi, c'est-à-dire pas seulement les pays occidentaux, mais le Japon, par exemple, aussi, ou la Corée du Sud. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, malgré évidemment la catastrophe humanitaire et politique en Ukraine. La bonne nouvelle, c'est que l'Occident est resté uni et résolu aux côtés de l'Ukraine, même si une intervention militaire est exclue. Pas parce que personne ne la jugerait justifiée, mais parce que tout le monde a peur de faire davantage de tort que de bien.
Merci beaucoup, Frédéric Mérand. Toujours intéressant.
Ça m'a fait plaisir. Bon après-midi.
À la prochaine. Monsieur Mérand est directeur du Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, le CERIUM.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Le chef de police Sylvain Caron qui prend une retraite anticipée. Il était supposé de finir son mandat fin 2023. Il a annoncé, c'est sorti hier, et en conférence de presse ce matin, avec la mairesse, ce qui indique que, bon, probablement que les relations ne sont pas si mauvaises. La mairesse Plante était à son point de presse, mais quand même, le chef de police a dit quitter pour des raisons personnelles, mais il a aussi noté qu'il y avait eu des problèmes de communication avec l'administration de Valérie Plante. La mairesse est au bout du fil, me dit-on. Madame Plante, bonsoir.
Oui, bonsoir.
D'abord, ça fait-il longtemps que vous le saviez que le chef Caron allait partir?
Bien, M. Caron l'a dit, bien sûr, au directeur général en décembre, et puis moi, c'est au retour, là, je dirais, du temps des fêtes là, que mon directeur général m'en a informé, puis à ce moment-là, ben, j'ai tout de suite appelé Sylvain, M. Caron, pour discuter avec lui. Voilà, pouvoir m'enquérir de sa décision, puis qu'on puisse en discuter puis décider de la suite.
Avez-vous essayé de le retenir?
Ben moi, j'aurais aimé ça qu'il reste jusqu'à la fin de son mandat, c'est évident. Parce que d'ailleurs, M. Caron l'a dit, hein, il y avait un contrat. Au début, il voulait un contrat de 3 ans, puis nous, on a demandé un contrat de 5 ans. C'est nous qui lui avons demandé à la base de rester plus longtemps pour la stabilité, puis tout le reste. Et puis M. Caron, qui travaillait également avec M. Prud'homme, hein, qui avait été le chef par intérim là après la décision de Québec. Là. Bon, là, j'en ferai pas l'histoire, mais disons que M. Caron, on le connaissait bien, il travaillait, il était déjà dans la machine.
OK. Dites-moi, bon, je pense que les relations n'étaient pas si mauvaises si vous avez partagé la tribune dans la conférence de presse aujourd'hui. Là, connaissant comment ça fonctionne, il y a des gens, quand ils partent, il n'y a pas de conférence de presse commune. Ceci étant dit, M. Caron a dit qu'il y a eu des problèmes de communication entre le SPVM et la mairie. Donnez-moi un exemple de problème de communication.
Bien, je pense que M. Caron et moi, on était très conscients, là, moi dans mon rôle de mairesse et lui comme chef de police, que, comment dire, qu'il y avait un équilibre à conserver. Puis, ça prend du temps à trouver cet équilibre-là, parce que on s'en rappellera, là. Avant M. Prudhomme, avant que ce soit moi à la mairie, ben c'était un autre style. Il y avait plus d'ingérence dans le service de police. Alors que moi, quand je suis devenue mairesse, c'était très clair que je voulais donner de la liberté, là, je veux dire, opérationnelle, de la confiance au chef de police. Il y a 5000 policiers sous sa gouverne, sous son leadership. Alors, j'ai envie de dire que la communication, c'est surtout à quel moment est-ce qu'on intervient ou quel genre de discussion on a. Je pense que l'exemple que tout le monde va avoir en tête, puis je pense même que M. Caron en a parlé, ce serait l'histoire de M. Camara, où au final, chacun avait son rôle à jouer, puis moi, je pense que c'était important pour moi comme mairesse de me positionner, M. Caron également. Mais disons, dans le fil de téléphone, là, on aurait dû avoir un petit appel ou deux de
c'est
plus.
Ça, parce que pour situer les gens, quand M. Camara a été accusé faussement, vous étiez sorti, puis vous aviez, je veux pas dire que vous aviez critiqué la police, mais vous aviez dit votre inquiétude à savoir si c'était un cas de profilage racial. Les policiers, disons, ne l'avaient pas super bien pris. Qu'est-ce que vous étiez dit avec le chef quand vous étiez parlé en privé dans les heures suivant votre déclaration?
Ça fait déjà un bout de temps. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on s'était parlé à ce moment-là.
Mais il était pas content.
Je pense que pour eux, la séquence qu'ils avaient en tête, l'information qu'ils doivent donner, c'était peut-être pas la même que moi, par exemple. Puis vous savez, M. Caron l'a dit également, lui aussi a appris là-dedans. Puis moi aussi, je vais vous dire que j'ai appris dans mon rôle. Et M. Caron l'a dit dans une entrevue, je pense, il disait, c'est à quel moment, quand on parle de communication, jusqu'à quel point, quel genre d'informations qu'on donne à la mairesse en matière des informations sur les enquêtes? Et pour M. Camara, c'était un peu ça aussi, des informations qu'on n'avait pas, qu'on n'a pas eues à la même vitesse. Mais vous savez, la question de la communication, j'ai vraiment envie de vous dire que pour nous deux, en tout cas, parce que la notion même, être éthique, l'intégrité pour M. Caron puis pour moi, là, c'était clair que c'était une valeur profonde. Puis encore une fois, basé sur un autre modèle, on a vu ce que ça a donné. Peut-être qu'on a été trop précautionneux. Mais on voulait vraiment s'assurer que les choses étaient faites dans le bon ordre puis qu'on respecte chacun notre titre.
OK. Une ou deux questions sur la personne qui va être appelée à remplacer le chef Caron. D'abord, Martin Prudhomme avait remis, disons, un petit peu d'ordre dans le service de police de la Ville de Montréal qui en avait bien besoin. Après ça, il est retourné à la SQ. Il y a eu ses démêlés avec le gouvernement du Québec. On sait, là, il y a eu un règlement. Avez-vous pensé à réinviter M. Prudhomme à revenir diriger la police de Montréal?
Écoutez, le poste de chef de police, là, il ouvre lundi. Alors, on va voir qui va se présenter.
Mais vous le savez depuis décembre qu'il s'en va. Avez-vous demandé à M. Prudhomme?
En effet. Moi, honnêtement, vous savez, là aussi, sur ce sujet-là, moi, je suis vraiment une personne qui laisse le processus suivre son cours. Okay. C'est vrai, là. C'est-à-dire que...
Moi, j'allais à la pêche, mais vous avez l'air de quelqu'un qui veut pas me donner la réponse.
C'est surtout que, je le répète, moi, je place pas les gens. Moi, c'est important qu'il y ait un processus en bas d'une forme sur lequel, d'ailleurs, je tiens à le mentionner, là, il y aura pas juste la Ville de Montréal qui choisit le chef de police, hein. Pas juste l'administration, il y aura d'autres personnes.
Mais c'est Québec qui donne le tampon final, je pense, hein, pour Montréal.
Parce que la police de Montréal, c'est le plus gros corps de police au Québec, la seule police de type 5, d'ailleurs, là, en termes de responsabilité, là, vous savez ce que ça veut dire. Mais en gros, là, pour nos auditeurs, là, on parle de tout ce qui pourrait toucher la cybersécurité, les attaques terroristes. Donc, c'est un rôle névralgique. Le corps de police de Montréal, il est incomparable au Québec.
OK. Si vous permettez, on va écouter un extrait de l'entrevue que Yves Francaire, le président de la Fraternité des policiers, a accordé à Paul Arcand ce matin.
Malheureusement, le travail de directeur de police est de plus en plus politique et de plus en plus contrôlé politiquement. Fait que c'est pas évident. mais c'est certain que c'est plus efficace, surtout dans le contexte actuel où on voit une montée des crimes violents. Ce serait bénéfique d'avoir effectivement quelqu'un qui a une expérience policière.
La question portait sur le fait que est-ce que ça pourrait être une personne qui est un ou une civile, pas issue des rangs policiers. Pour vous, est-ce que c'est important que le prochain, la prochaine chef de la police de Montréal soit quelqu'un qui soit issu d'une carrière policière?
Ah, je pense que c'est un atout incroyable. C'est évident.
Donc, il n'y aura pas de civil.
Ah, il pourrait. Ah, non, je dis pas qu'il n'y en aura pas. Encore une fois, moi, je me mets pas du processus de sélection, puis même des CV qui vont être présentés. Mais si vous me demandez, est-ce que c'est un atout? Absolument, pour la complexité, parce que c'est le plus gros corps de police du Québec. Les défis sont incroyables. Puis d'ailleurs, j'ai envie de vous dire que moi, j'en ai des attentes. Peut-être, je peux pas vous dire qui va poser sa candidature, mais je peux vous dire, par contre, que je m'attends, c'est ce que j'espère qu'il va y avoir comme profil, là. Ça, c'est évident.
C'est quoi? Qu'est-ce que vous espérez comme profil?
Ben, moi, je veux vraiment quelqu'un, là, je le disais tantôt, là, mais la complexité des enjeux montréalais, ça va de soi. Mais la question de la proximité avec les différentes communautés, ça, c'est fondamental. On a besoin d'avoir une police qui est des policiers et policières qui connaissent bien les différents quartiers. Toute la question du profilage social et racial, le travail qui a été fait jusqu'à maintenant, qui a beaucoup avancé d'ailleurs. Il faut continuer à faire avancer ce projet-là. Puis finalement, j'ai envie de vous dire de penser à l'extérieur de la boîte. Et là-dessus, je l'ai dit ce matin en conférence de presse avec M. Caron, là, l'idée que j'ai remis de faire un forum sur la violence armée qui et l'impact sur les jeunes pour en arriver à un modèle montréalais de lutte contre la violence armée, pour moi, ça, c'est innover. C'est ça que je veux. Je veux un ou une chef de police qui va nous emmener plus loin, qui va pas se satisfaire du statu quo, qui va brasser les choses pour le bien de Montréal, parce que le crime organisé, il change. Là. C'est évident. Il faut qu'on s'adapte, puis nous autres aussi, il faut qu'on change.
Est-ce que on sait que ce qui a mené à plusieurs difficultés dans la police, à plusieurs scandales internes à l'époque du directeur Pichet, c'est la rivalité entre les clans qui espéraient voir leur candidat devenir directeur du SPVM. Avez-vous peur que maintenant qu'il y a une nouvelle course, que le SPVM retombe dans le chaos?
Ben écoutez, pour l'avoir vécu, hein, effectivement, c'est là où Québec s'en est mêlé pour retirer le chef de... En fait, on a choisi M. Prudhomme pour faire un intérim. C'est pas une situation qu'on veut revivre. Moi, je veux pas revivre ça. Ceci étant dit, le travail de M. Prudhomme et par la suite de M. Caron a vraiment contribué à réitérer la confiance, à arrêter ces guerres internes-là. Alors, c'est évident que moi, je souhaite, il faut que cette paix et que le travail se fasse là, justement au niveau de la population. On veut pas avoir du monde qui chicane à l'intérieur de l'organisation. Alors, on va porter une attention toute particulière à ça.
Est-ce que je sais que ça avait, il y avait eu un petit peu de friture sur la ligne entre M. Caron et vous, Mme la mairesse, parce que lui, il a émis un plan, il a lancé une idée de réduire le nombre de postes de quartier et le politique a très mal réagi. Allez-vous accepter que la prochaine personne présente un plan semblable si elle pense que c'est une bonne idée?
Bien, il va falloir que ça soit, mon Dieu, un plan. Je veux dire, moi, je suis toujours ouverte à entendre. Même quand M. Caron nous l'a parlé, j'ai été comme surprise. Mais je veux dire, moi, je peux pas dire à un chef de police, non, présente-moi rien, mêle-toi pas de ça. C'est sa prérogative et moi, je vais continuer à l'assumer, justement, et à encourager ça. Par contre, je vous disais tantôt que dans ma vision de la police, il faut que les services de proximité demeurent et même soient amplifiés. Alors, il va falloir qu'il y ait des call-ins de bons arguments ou en tout cas un plan de match. Je comprends la nécessité, ceci étant dit, de revoir certaines façons de faire pour maximiser, s'assurer qu'il y ait plus de policiers sur le terrain. Il y a plein d'objectifs qu'on partage, mais la manière d'y arriver... Ça va être, si jamais c'est une ambition du prochain chef de police, ben, il va falloir qu'on en parle abondamment. Mais pour moi, il faut que la proximité demeure au cœur de la mission du SPVM.
OK, Mme la mairesse, dernière question. Quelqu'un qui m'envoie un commentaire et le commentaire joue sur, disons, les perceptions, les préjugés face à Projet Montréal. La personne me dit, la mairesse va choisir une femme racisée, non-binaire, handicapée pour remplacer le chef de police. Fait que je vous poserai pas la question comme ça, mais est-ce que quelqu'un qui n'est pas un homme, qui n'est pas blanc, a un avantage?
Je suis un peu surprise par cette question. Honnêtement, pas par la vôtre, mais par le commentaire de cette personne. Je pense que c'est un peu réducteur, parce que dans ce cas-ci, mais comme dans tous les postes, ce qu'on veut, c'est la personne qui va être la mieux qualifiée. Tantôt, je vous ai parlé des atouts, hein, de bien connaître le service de police de Montréal ou tout autre service, effectivement, puis qui va être proche du monde. Tu sais, je veux dire, pour moi, c'est ça qui compte. Là.
Non, mais on est dans une ère de diversité aussi. Je ne ferai pas un dessin. Là, partout, les gens cherchent des candidats, des candidates différents.
Oui, mais en même temps, pour moi, jamais les nombreux critères qui viennent d'être nommés par cet auditeur ne vont primer sur et la qualité et la compétence et la vision et tous ces éléments qui sont absolument fondamentaux. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Et on veut pas réduire un ou une candidate à ce qu'elle représente de la même façon qu'on veut s'assurer que les compétences sont là.
Merci, Mme la mairesse. Bonne. Allez-vous passer une annonce sur Kijiji? Comment ça marche si les gens veulent postuler?
Ça devrait être le site de la ville lundi, là, sur le site du FCVM.
Très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.
OK, on va parler d'Ukraine. Il y a un Franco-Ontarien qui habitait en Ukraine depuis une vingtaine d'années, qui a pu fuir le pays et qui est récemment arrivé le samedi. Il est revenu au Canada avec sa femme ukrainienne et ses deux filles. Il s'agit de Luc Chénier, qui est là-bas à Kiev, directeur général du journal Kiev Post. On le rejoint à Hawkesbury, dans l'Est ontarien. C'est à mi-chemin entre Montréal et Ottawa. Salut, Luc.
Bonjour, salut.
Content d'être revenu?
Oui, à un certain point, c'est intéressant, mais pas la manière que je pensais de revenir au Canada, mais quand même, je suis content d'être au Canada.
Raconte aux gens qui nous écoutent à quel point ça n'a pas été évident de sortir de l'Ukraine et de rentrer au Canada.
Oui, ça a été quand même assez un grand challenge comme sortir de l'Ukraine. Oui, c'est il y a eu beaucoup de voyagements. C'est des avions. Il y avait rien qui marchait. Donc, fallait se rendre en auto d'un bout du pays à l'autre. Fallait se rendre au sud du pays pour rentrer par la Hongrie. Et après la Hongrie, fallait se rendre à Budapest. De Budapest, fallait finalement se rendre jusqu'à Vienne en Autriche pour l'ambassade canadienne. Donc, je pense que j'ai fait autant de voyagements que ça m'intéressait, mais. On s'est rendu quand même, mais vraiment, c'est les difficultés d'avoir des réponses vraiment de visa pour ma femme, parce que mes deux filles sont canadiennes. Moi, je suis canadien, comme vous le savez. Ma femme, c'était simplement un autocollant dans son passeport qu'on avait fait application avant même que le bombardement commence. Donc, c'est ça qui vraiment qui a pris le plus de temps possible.
Luc, il y a beaucoup d'histoires qui ont circulé ces derniers jours, ces dernières semaines, de Canadiens qui sont allés là-bas, dans les pays limitrophes, la Pologne, la Roumanie, etc., et qui ont eu beaucoup de difficultés à naviguer avec la machine bureaucratique canadienne là, pour faire sortir leurs proches. Est-ce que ça a été ton cas aussi?
Écoute, moi c'est mon cas. Je peux pas dire vraiment que ça a été hyper difficile. C'est qu'est-ce qui a vraiment été difficile, c'était d'avoir des réponses. C'était complètement, il y avait aucune communication. C'était vraiment, vraiment difficile d'avoir même une réponse. Ils nous envoyaient un téléphone, il y avait un autre téléphone qui t'amenait à un autre téléphone. Et après un certain point, tu tournais en rond et c'était le même jeu comme continuellement. Et après, tu réalisais que personne ne savait qu'est-ce qui se passait vraiment. Ils ne pouvaient pas te donner de réponse du tout. Fait que c'est pour ça que j'ai été quand même assez chanceux, que je travaille dans le monde du média avec beaucoup de journalistes et je connais beaucoup de monde. Cette fois-ci, j'ai décidé, comme je m'ai choqué, je disais que si je fais pas quelque chose, je vais être pogné ici, puis je sais pas pour combien de temps, parce qu'ils ne répondaient rien. Donc, moi, je peux même pas imaginer le monde qui n'ont pas les contacts que j'ai. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de passer à travers. C'est wow pour moi.
Je comprends. En fait, ton histoire rejoint celle de beaucoup de gens là, qui ont parlé aux médias depuis plusieurs jours. Luc, explique aux gens ce qui t'a amené en Ukraine. Tu habites là depuis plus de 20 ans.
Oui, une vingtaine d'années que je travaille là. Et comme n'importe quel jeune bonhomme à 27 ans, ça m'intéressait de voir le monde. Donc, j'avais été visiter beaucoup de pays, mais pour une rencontre par chance, j'ai rencontré un directeur dans la publicité. Il m'a demandé si je voulais venir travailler en Ukraine pour un contrat de 2 ans. Et même pendant un an ou 2 ans dedans, j'ai tombé en amour avec le pays au complet et j'ai réalisé que c'était vraiment une différente version, mais assez proche de Montréal. Et 20 ans plus tard, je suis marié, j'ai 2 enfants, puis c'est vraiment une place unique. Et beaucoup de monde qui viennent, c'est quand ils viennent à Kiev, ils sont complètement c'est wow. Ils ne reviennent pas comment beau que c'est, comment moderne et comment beau, et la technologie, le style, les restaurants et tout. Donc, c'est facile de tomber en amour avec Kiev, avec l'Ukraine.
Luc, à quel moment t'as su qu'il fallait que tu sortes, toi et ta famille, de Kiev puis de l'Ukraine?
C'est comme pendant 8 ans, on était avec la guerre avec la Russie dans l'Est et dans le Sud, c'est quand ils ont pris Crimea. T'sais, on était quand même assez habitués, c'est comme un style de vie vraiment qu'on était rendu, c'était jamais confortable. Mais dans les 2 derniers mois, ça commençait à pousser et pousser. Je pensais que c'était juste du bluff, tu sais, tout le monde là, on a de l'armée, on a 150 000 sur les frontières, puis... Tu sais, on parlait avec les amis. Oui, tu sais, c'est bien beau. Ça, c'est juste pour pousser pour les négociations. Mais vraiment, dans la dernière semaine, l'ambassade américaine, le monde avec le gouvernement, ils m'ont appelé puis ils m'ont dit, c'est extrêmement sérieux. C'est pas du bluff. On a déménagé toute l'ambassade au complet à la Pologne. Le Canada déménage aussi. Tout le monde déménage. Donc, vraiment, faudrait que tu sortes le plus vite possible. Donc, j'avais pris la décision une semaine avant d'envoyer mon rédacteur-chef, qui était mon star, tu sais, comme quasi comme un journaliste. Mm-hmm. Et je l'ai envoyé en Espagne et j'ai même pas demandé, j'ai donné un ordre parce que j'ai dit, s'il y a quelque chose qui se passe, il faut que tu sois capable de continuer à donner les nouvelles. Et 3-4 jours avant que nous, on parle, j'avais donné l'ordre à tout le monde au journal qu'ils devraient arrêter de venir au bureau et de travailler de chez eux. S'il y avait des plans d'aller dans l'Ouest. Et nous, on avait déjà décidé qu'on s'en allait aller vivre parce que l'ambassade canadienne avait déménagé et on avait fait application de visa pour ma femme et on était pour revenir au Canada pour 2 mois au maximum, juste au cas quelque chose qui arrive, mais on voulait voir qu'est-ce qui était pour se passer. Donc, on était chanceux que la soirée, avant que les bombes ont tombé, toutes nos valises étaient prêtes déjà et on voyageait la journée même. 5h18 le matin, la première missile a frappé. Puis, je veux dire, c'est une émotion que je ne vais jamais oublier. Que c'est quand on se fait réveiller soudainement et en même temps qu'on réalise, wow, c'est sérieux, il a commencé, puis... C'est vraiment, vraiment dur à décrire exactement. Fait qu'on a sauté dans une auto, on a commencé à voyager. Ça a duré 17 jours et maintenant, je suis à Hawkesbury.
Luc, je me souviens, là, avant même que les Russes envahissent, là, quand Poutine avait massé ses armées le long de la frontière, j'avais parlé à un correspondant en Ukraine qui m'avait dit... Écoutez, les gens y croient pas vraiment. Penses-tu qu'il y avait une sorte de déni?
Le monde qui croyait pas du tout, puis moi j'étais un d'eux, qu'il y aurait des missiles qui frapperaient des hôpitaux dans la ville de Kiev. Il y aurait les massacres, c'est comme qu'on a vu à Mariupol et tout. C'était impossible à même imaginer. C'est comme, imagine que les Américains ils frapperaient sur Montréal. C'est impossible. C'est la même chose qui est arrivée avec nous. C'est comme, comment que ça peut arriver?
Ce déni-là vient du fait que, OK, c'est un bon exemple que tu soulèves là. C'est comme si on avait une chicane avec les Américains. OK, ça peut arriver, mais personne ne croit que Washington va déclencher une invasion du Québec, de l'Ontario.
Non, parce que ça fait aucun sens. Ça fait pas de sens. C'est la même chose avec nous. S'il y avait aucun sens que c'était pour arriver... On s'en doutait un peu de qu'est-ce qu'ils ont fait avec le Crimea et dans l'Est avec de la guerre un peu, mais de mettre des missiles dans des maisons, dans des hôpitaux avec des enfants et juste complètement écraser des villes au complet, comme je pense que le monde en entier y en vienne pas.
Est-ce que tu as espoir de retourner en Ukraine ou tu penses que ce sera pas possible?
J'ai tout le temps un espoir parce qu'on a tout laissé. J'ai laissé ma maison, on a laissé nos automobiles, notre business, tout est complètement laissé, beaucoup d'amis. Mais j'ai réalisé, c'est qu'est-ce qui m'a fait mal vraiment émotionnellement, c'est quand on voyageait, c'est qu'on le sait que c'est plus le même pays qu'on a tombé en amour avec et ça va jamais l'être non plus. Donc, la plus grosse leçon, je pense, qu'on a su, c'est que c'est incroyable comment qu'on met donc beaucoup d'emphase dessus le matériel, nos autos, nos maisons et tout ça, mais c'est facile. C'est quand une bombe frappe proche de chez vous et que tu vois que ça commence vraiment dur, que tu peux mettre toute ta vie dans une valise et oublier tout le restant parce que ça n'a aucun sens même d'y passer. Fait que, puis moi, je le regrette pas comme j'ai tout perdu, mais c'est j'ai aucune rancune. Ça me fait pas mal du tout. Je suis juste content que la famille est sauf au Canada.
Ce qui est important, c'est de partir avec ta femme, tes 2 filles et toi-même, puis te sauver.
Exactement, mais tu peux mettre toute ta vie dans une valise, c'est plus facile que tu penses.
Luc, merci beaucoup, en espérant que tout ça là, puisse trouver une résolution rapide, même si on en doute. Bon séjour au Canada.
Merci beaucoup et merci pour le support, je l'apprécie beaucoup.
Salut, à la prochaine. C'était Luc Chénier. Franco-ontarien d'origine, on le rejoint à Hawkesbury, il a fui l'Ukraine. Là-bas, à Kiev, il est directeur général d'un journal Kiev Post. Et vous l'avez entendu, c'est le récit de sa fuite inattendue.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Dave, est-ce que tu as bientôt 50 ans?
Dans 2 ans.
Dans 2 ans, ça approche. Est-ce que le cancer du côlon commence à être sur ton esprit?
J'ai déjà passé 2 tests et pour avoir parlé un peu au la gentille docteur qui est avec nous pour ta prochaine entrevue, je suis exactement la personne qui déteste se faire tester. Et paraît-il que c'est aux 5 ans. Moi, j'étire un peu trop. La dernière fois, je suis resté enfermé dans la toilette parce que je voulais pas sortir. Parce qu'ils disaient, je fais pas de dessin.
Garde ton idée, on va en parler. Oui. Docteur Mélanie Bélanger est avec nous, présidente et porte-parole de l'Association des gastro entérologue du Québec pour parler de cancer du côlon. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être là. Écoutez, c'est un sujet qui me tient à cœur. Mon père est mort du cancer du côlon et depuis 10 ans, je me fais tester aux 5 ans, ce que raconte Dave. Et il y a une sorte d'attention particulière qui est donnée aux hommes qui soupçonnent pas qu'ils ont le cancer du côlon. Pourquoi particulièrement les hommes?
Écoutez, je pense que ça touche probablement les femmes quasiment autant que les hommes. Mmh. Je pense que les femmes ont plus le réflexe de 50 ans parce que les femmes, elles reçoivent la lettre du gouvernement qui leur fait penser au dépistage du cancer du sein. Okay. Et ça, vous ne voulez pas, ça allume une question de dépistage que les hommes n'ont pas. Les femmes sont également autant touchées que les hommes. Les hommes, on a l'impression qu'ils ont plus la crainte ou la réticence.
On consulte moins.
Exactement.
Qu'est-ce qui explique ça qu'en général, on consulte moins? Est-ce que c'est connu dans la littérature?
Multiples facteurs.
OK, parfait. Cancer du côlon, quand on le met dans le tableau sinistre des cancers qui tuent le plus, il se trouve où?
Le cancer du côlon, c'est le deuxième cancer qui est le plus meurtrier chez l'homme après le cancer du poumon et le troisième après la femme, après le cancer du poumon et le cancer du sein.
OK.
Et le cancer du côlon, sa particularité importante, c'est un cancer qui est évitable. Et ça, souvent, c'est pas dit. On peut... pas seulement dépister le cancer du côlon, mais par cette trajectoire-là, on peut prendre action et éviter complètement le cancer.
Donc, si je comprends bien, s'il est dépisté de façon précoce, c'est un cancer qui se traite bien.
Encore plus que ça. Parce qu'avant que ça devienne un cancer, ça s'appelle un polype. Un polype, c'est une lésion dans l'intestin qui n'est pas cancéreuse du tout. C'est une lésion que vous ne pouvez pas savoir que vous avez. Et si vous subissez un test, si vous passez un test de dépistage... Et au moment où vous avez des polypes, le fait de par la suite d'avoir une coloscopie par un gastro-entérologue comme moi, on va pouvoir retirer ces lésions-là, qui encore, je le répète, ne sont absolument pas du cancer. Et puis après, vous allez aller souper chez vous en vous disant que vous avez complètement évité le cancer du côlon.
Ce que je m'étais fait expliquer, c'est que tous les polypes ne sont pas cancéreux, mais tous les cancers commencent par des polypes.
Exactement. Les polypes ne deviendront pas cancéreux, mais effectivement, les cancers ont commencé par des polypes à un moment donné. Donc, quelqu'un qui a un cancer, c'est quelqu'un qui, quelques années auparavant, aurait pu agir et avoir ses polypes enlevés et éviter le cancer.
OK. Donc, ce que vous recommandez, docteur Bélanger, là, parce que vous le dites, si c'est dépisté tôt, ben les taux de guérison sont excellents. À partir de quel âge est-ce qu'on devrait aller passer une coloscopie?
Le Québec, la stratégie que le Québec a décidé d'utiliser, c'est la stratégie de pas faire une coloscopie d'emblée pour la population. La stratégie, c'est de chaque personne qui a 50 ans, les gens en forme, les végétariens, les hommes, les femmes, tout le monde, doit avoir une prévention. La façon de faire initiale, c'est un test qui s'appelle le test RSOSI. Ça, c'est l'équivalent d'un Q-tip que vous mettez dans votre toilette. Ça prend 5 secondes, c'est pas plus compliqué.
Pour faire un prélèvement de sel.
Exactement. Et voir s'il y a du sang microscopique, du sang que vous ne pouvez pas voir, que vous ne pouvez pas détecter. Et si jamais il n'y a pas de sang, si votre test est négatif, comme ça arrive dans 95% des cas, ben vous êtes rassuré de sûrement éviter ce cancer si fréquent-là et vous refaites ce test-là 2 ans après.
Ça, comment on le fait? On va à la pharmacie, on va au CLSC, comment ça marche?
Actuellement, il n'y a pas de système organisé où les gens sont notifiés, où les gens sont pris en charge par un programme. C'est ce qui serait souhaitable, mais quand même, même s'il n'y a pas ce système-là, les gens doivent aller voir leur médecin, un médecin de famille, un praticien de la santé, qui va leur remettre l'ordonnance.
OK, on va se tourner maintenant vers quelqu'un qui n'est pas en studio, est au bout du fil. Yves Dubé est un survivant du cancer du côlon. Monsieur Dubé, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être là, Monsieur Dubé. Écoutez, vous venez d'entendre, j'imagine, Docteur Bélanger. Vous, là, vous avez eu un cancer du côlon qui a été dépisté de façon pas hyper précoce, mais quand même précoce. Expliquez aux gens, ça a été quoi les symptômes? Comment vous l'avez découvert?
En fait, je suis exactement le cas de l'explication que le Dr Bélanger a dit. C'est que à 50 ans, je suis allé voir mon médecin, que j'allais voir une fois par année. Et, mon médecin, on a rigolé sur le fait que j'avais 50 ans. Puis, il m'a dit, à 50 ans, on vérifie le côlon. Ça fait qu'on fait le test du RSOSI. Donc, je suis parti à la maison, j'ai fait le petit test, j'ai envoyé ça au laboratoire. Et quelle surprise, c'est sorti positif. J'avais absolument aucun symptôme. Je vous dirais que cet été-là, l'été 2014, j'étais en pleine forme. J'ai fait des travaux dans ma cour, je travaillais physiquement, j'étais en pleine forme. Aucun symptôme. Même mes selles, les couleurs étaient tout à fait normales. Sauf que le résultat a donné positif. Donc là, on m'a demandé d'aller faire une coloscopie par la suite. Ça n'a pas tardé, j'ai été chanceux, comme ça a été si rapide. Dans le mois qui a suivi, j'ai fait la coloscopie. Et la coloscopie a déterminé que j'avais effectivement une tumeur qui était importante. Donc j'ai par la suite été à l'opération pour le retrait de la tumeur. Puis lorsque le médecin a retiré la tumeur, ils ont fait la pathologie, ils ont dit que j'étais un cancer de stade 2, sur le bord de devenir un stade 3. La tumeur avait déjà transpercé mon côlon, était sur le point de se réparer.
Donc, si je comprends bien, là, si vous aviez pas de concert avec votre médecin, fait ce test-là, le prélèvement RSOSI, ben votre cancer aurait probablement été dépisté beaucoup plus tardivement.
Je serais pas là aujourd'hui probablement vous en parler, c'est ce que mon médecin a dit. Mon médecin, moi, ce qu'elle m'a dit, après le retrait de la tumeur, carrément, elle m'a dit, dans votre cas, 6 mois, 1 an plus tard, il aurait été trop tard.
Docteur Bélanger.
Ça fait maintenant, vous avez, ça fait la 8e année aujourd'hui, je suis en pleine forme, puis pour moi, c'est toutes des années de bonheur.
Ben, on vous comprend, bougez pas, M. Dubé, je me retourne encore vers Docteur Bélanger. L'histoire de Yves Dubé, c'est un classique, j'imagine. Pas de symptômes, pas moyen de le savoir.
C'est ça. L'histoire de M. Dubé, c'est une histoire de minuit et une. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont attrapés par le cancer, par le dépistage, puis ils viennent nous voir alors qu'ils ont un cancer avéré, mais un cancer peu avancé duquel ils peuvent guérir. Mais nous, ce qu'on veut avoir, c'est les minuits moins 5, les minuits moins 1.
Les poignées au stade 1.
Avant qu'ils deviennent un cancer, avant même le stade 1. Parce que là.
Ça se fait avec le prélèvement, ça?
Ça se fait avec le prélèvement. Le but du prélèvement dans un mondial, c'est justement d'attraper tous ces polypes-là. Et les polypes, vous n'avez pas besoin d'une opération. Quand vous venez passer votre coloscopie, ils sont détectés, ils sont enlevés, séance tenante. Vous allez souper chez vous, vous allez travailler le lendemain matin, puis vous avez évité le cancer.
Les gens sur la messagerie ont des questions. Je que ça serait pas... à quoi ça ressemble à une polype? J'imagine qu'on ne le voit tout simplement pas. C'est vous qui le voyez avec la coloscopie.
Exactement.
Deuxième question, il y a des gens qui attendent déjà, parce que c'est compliqué d'avoir des rendez-vous. Il y a un monsieur qui écrit qu'il attend depuis 3 ans pour une coloscopie, et un autre qui nous demande, avec la pandémie, est-ce que c'est plus difficile d'avoir des rendez-vous?
La pandémie, ça a été dans les nouvelles pendant les 2 dernières années, ça a eu des impacts importants en endoscopie. Ça a eu des impacts où les listes d'attente se sont allongées, mais ça a aussi fait que ça nous a donné l'opportunité de nous réorganiser puis de reprioriser les gens. Okay. Et les gens qui ont un test RSOSI positif sont parmi les patients qui sont les plus priorisés dans les unités. Actuellement, c'est repris. Hein. Dans les unités d'endoscopie, c'est repris au niveau où c'était avant. On est en train de reprendre notre air d'aller. L'histoire malheureuse que vous me racontez de quelqu'un qui attend, ça peut pas être un patient qui a un test RSOSI. Il y a diverses listes d'attente, mais pour prioriser des gens, il faut en faire attendre certains autres. Et les messages que je veux transmettre, c'est qu'en ce moment, si vous passez un test RSOSI qui est positif et que vous avez besoin d'une coloscopie, vous allez l'avoir dans les délais recommandés qui sont de 8 semaines environ.
Il y a un truc que je vais aborder avec vous, Dr Bélanger, et avec Yves Dubé. Les fois où j'ai parlé de cancer du côlon, de prévention, parce que, faut le dire, quand on passe une coloscopie, c'est un processus qui dure 24 heures. C'est-à-dire que on avale des liquides, ça nous fait évacuer. Et après ça, au bout, ben oui, bouchez vos oreilles, là. Oui, on vous rentre quelque chose là où le soleil brille pas. Puis il y a bien des gars, dans mon expérience, que là, ils font des petites jokes quand tu parles de ça. Et ce que je sens, c'est que ça rebute beaucoup d'hommes, ça. Il y a beaucoup de gars qui veulent pas passer à travers ce processus-là. Est-ce que je suis dans le champ?
Vous êtes pas dans le champ, puis je pense que c'est ça. Quand les gens ont l'idée de la coloscopie, qu'ils vont se faire entrer dans une civière, dans un endroit en stainless steel avec quelqu'un qui parle pas français. Mais quand les gens arrivent, puis on les rencontre, on leur met la main sur l'épaule, les gens, on voit le stress baisser, on leur explique. Ils voient qu'il y en a 5 salles où ça se fait pendant la journée. Là, ça devient beaucoup plus banalisé. Les gens qui n'ont la première, c'est la plus difficile. Les gens qui reviennent après connaissent ça.
C'est là que je veux lancer un message un peu plus personnel. Pour l'avoir fait 2 fois, écoutez, le bout le plus plate, c'est quand on avale les liquides. Parce que l'autre bout, je vous le dis, messieurs et dames, vous êtes endormis. Vous êtes semi-endormi, vous sentirez rien. C'est comme si vous étiez endormi, puis vous avez. Moi, j'ai rien senti, j'ai eu aucune douleur. Et là, je vais me tourner vers Yves Dubé. Monsieur Dubé, vous l'avez eu le cancer du côlon. Dites aux gens que c'est peut-être mieux de se faire une coloscopie que d'avoir le cancer du côlon.
Une coloscopie, c'est rendu. J'en ai eu plusieurs depuis ce temps-là. Et c'est presque un moment de relax. C'est simple comme bonjour. C'est vraiment facile. Les gens qui craignent ça, ils n'ont aucune raison de faire ça. C'est vraiment simple. Effectivement, comme vous le disiez, la période plate, c'est vraiment la période avant le liquide, parce que cette période-là, on fait une vidange complète, là, puis c'est pas agréable. Mais la coloscopie comme soi, c'est pratiquement rien.
Vous avez pas eu mal pendant la coloscopie?
Pas du tout. Comme je vous dis, j'ai eu plusieurs depuis ce temps-là, puis j'ai jamais eu de problème, jamais eu mal, jamais rien. C'est vraiment simple.
Parfait. Je donne le mot de la fin à Dr. Bélanger.
Alors, avec un test RSOSI que vous faites, un test qui est simple, qui est sans douleur, qui est gratuit, vous allez pouvoir éviter le deuxième cancer le plus mortel au Canada.
Ben,
allez-y.
C'est un message important que vous avez lancé. Merci d'être venu nous le présenter en studio. Merci beaucoup, Yves Dubé, survivant du cancer du côlon. On vous souhaite de nombreuses et belles années encore.
Ça m'a fait plaisir. Je vous remercie infiniment. Au revoir.
Merci beaucoup. C'était Yves Dubé, survivant du cancer du côlon, et Dr. Mélanie Bélanger, présidente et porte-parole de l'Association des gastro-entérologues du Québec.
Pendant ce temps-là, nous, les femmes, on va passer des mammographies qui font très, très mal sans chialer.
C'est vrai.
Écoutez, j'ai vu mon père qui a eu le cancer du côlon, qui en est mort. Je sais pas c'était quoi la prévention, mais connaissant mon père, il devait être comme les autres gars de cet âge-là à l'époque, ne pas être trop y tenté d'aller passer ce genre d'examen-là. On le sait, les gars, on en parlait tantôt. Généralement, on se fait moins tester pour toutes sortes de choses. C'est bien moins pire d'aller passer la coloscopie puis de faire le test, comme vous l'avez dit, COSCI, c'est bien ça?
RSOSI.
RSOSI, que d'avoir à subir des traitements de chimiothérapie. Merci d'être venu nous voir en studio, Dr. Bélanger.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.